semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 4 juillet, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine avec un retour en studio pour vous le présenter. Nous en sommes ravis, Vanessa Rovansky et moi. Nous allons une nouvelle fois voyager donc et revenir sur les grands moments de l'actualité de ces 7 derniers jours avec les reportages de la rédaction en privilégiant l'actualité internationale et donc moins l'actualité politique française avec le changement de gouvernement dont on vous parle dans nos journaux et en tout cas le départ d'Édouard Philippe et la nomination de Jean Castex à Matignon. Nous partirons par exemple pour les États-Unis, la Russie, la Mauritanie. Nous parlerons aussi du Rwanda avec Florence Maurice. Nous sommes cette semaine en compagnie de Patrice Franceschi qui vient d'écrire un vibrant plaidoyer en faveur des Kurdes, un texte publié dans la collection Tracts de Gallimard, son titre « Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous ». Avant de retrouver Patrice Franceschi, partons tout de suite pour Hong Kong, où en décidant de voter une loi de sécurité nationale dans ce territoire, Pékin a mis fin à la règle « un pays, deux systèmes » instaurée pour 50 ans lors de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à Pékin en 1997. Qu'y a-t-il dans cette loi ? Réponse sur place de Florence de Chourgy.
Tout inquiète dans cette loi qui compte 6 chapitres et 66 articles. Elle couvre 4 délits, la sécession ou séparatisme, la subversion, le terrorisme et la collusion ou conspiration avec une puissance étrangère. Et ces 4 crimes sont passibles de peines de prison à perpétuité, bien que des peines de moins de 3 ans soient également prévues. Ce qui a surpris, c'est l'étendue de sa portée, puisque la loi couvre même des crimes commis en dehors de Hong Kong ou portant sur la notion d'indépendance de Taïwan. La nouvelle loi s'applique également aux étrangers qui auraient commis l'un de ces crimes de sécurité nationale et elle prévoit un contrôle plus étroit des organisations non gouvernementales et des journalistes étrangers séjournant à Hong Kong. Elle prévoit aussi la présence d'une police secrète qui pourra, semble-t-il, agir en toute impunité sous couvert de veiller à la sécurité nationale. Et dans tous les cas, c'est Pékin qui aura l'arbitrage final. Autant dire que cette loi comporte tout et plus pour terrifier la population hongkongaise, dont un petit nombre a néanmoins osé descendre dans la rue. Et en milieu d'après-midi, ce mercredi, la police avait déjà procédé à 30 arrestations dans le seul quartier de Causeway Bay.
Avant de joindre Patrice Franceschi, direction Bruxelles, pour évoquer cette fois le pardon du roi des Belges, Philippe, pardon pour les crimes commis pendant la colonisation du Congo. Dans une lettre adressée mardi au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le souverain regrette, écrit-il, ses blessures du passé. Correspondance de Pierre Benazé.
Dans sa lettre au président congolais, le roi Philippe évoque une histoire faite de réalisations communes, mais qui a aussi connu, je cite, des épisodes douloureux. Le roi des Belges parle de deux périodes, d'abord celle de l'État indépendant du Congo, 1885 à 1908, une époque pendant laquelle son arrière-arrière-grand-père, le roi Léopold II, était souverain de cette colonie qu'il détenait à titre personnel. Et pour cette époque, le roi Philippe va jusqu'à évoquer des violences et des cruautés. La lettre évoque ensuite la période coloniale, après 1908, lorsque le gouvernement belge a forcé Léopold II à céder le Congo à l'État, après des accusations d'exaction. Pour cette période-là, le roi Philippe évoque des souffrances et des humiliations. Le roi Philippe écrit ses plus profonds regrets à la première personne, un « je » qui renvoie à sa lignée familiale et à sa responsabilité personnelle en tant que chef de l'État. Cette lettre a été écrite de concert avec le gouvernement, comme l'impose la Constitution belge, mais le roi Philippe tenait cependant à le faire après le déboulonnage des statues de Léopold II, largement attaqué suite au mouvement mondial après la mort de George Floyd.
Une semaine d'actualité donc, une émission que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Patrice Franceschi.
Oui, bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Je ne sais comment vous présenter. Grand voyageur, écrivain, marin, en tout cas grand défenseur de la cause kurde. Et vous venez donc d'écrire un texte qui s'intitule « Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous », un texte publié dans la collection Tracts, qui est un véritable cri d'amour.
Et de défense, dans un monde où le désarroi domine, et où finalement on ne sait plus trop quoi penser. Alors, le texte s'appelle lui-même « Avec les Kurdes ». C'est le sous-titre qui, d'une certaine manière, est intéressant aussi, puisqu'il s'intitule, le sous-titre, « Ce que les avoirs abandonnés, donc les Kurdes, dit de nous ». La première partie du livre, c'est l'histoire du Kurdistan syrien dans l'époque contemporaine. Ce rêve des Kurdes de Syrie à la fois utopique et réaliste sur une nouvelle société basée sur la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, le respect des minorités et qui est aujourd'hui, évidemment, avec l'abandon qu'ils connaissent, en proie à des doutes, à des difficultés et peut-être à une disparition prochaine, on ne sait pas. Et la deuxième partie du livre, c'est surtout pourquoi nous, occidentaux, entre autres Français, nous avons commis cette faute politique et morale. À la fois morale parce que les Kurdes ont été à nos côtés contre l'État islamique pendant 5 ans, pour faire en sorte que les attentats qui étaient organisés dans le nord de la Syrie par les islamistes disparaissent. Et en même temps la faute politique puisque finalement en construisant à l'aide des Kurdes dans le nord de la Syrie un État autonome, et en tout cas une zone autonome grande comme 4 fois le Liban, nous avions une sorte de bouclier anti-djihadiste formidable pour l'avenir et une zone d'influence et de prospérité et en tout cas d'amitié avec ce qu'était la France et les pays occidentaux et que nous avons là aussi abandonné. Donc c'est quelque chose d'incroyable que pour défendre nos propres intérêts, nous en soyons aujourd'hui incapables. Voilà la thématique de ce petit tract chez Gallimard.
Alors, nous allons en reparler, évidemment, dans cette émission, Patrice, et notamment sur cette réflexion politique et quasiment philosophique que vous menez sur notre époque, en tout cas en Occident. Mais je vous propose d'écouter le témoignage d'un Kurde recueilli lors d'un reportage sur RFI par Muriel Paradon avec Boris Vichit. C'était au moment de l'offensive turque dans le Kurdistan syrien en octobre 2019. Écoutons ce Kurde. Je suis sûr qu'il va vous toucher, Patrice Franceschi.
Ce qu'ils ont fait aux Kurdes, tous les pays sont nos ennemis, mais nous n'avons pas d'ennemis. Ils nous combattent, nous tuent, mais nous ne tuons personne en retour. Tout le monde est mécontent de la situation. Nous pensions que nous étions soutenus et nous avons fait confiance gratuitement pour rien. Et maintenant, nous, les Kurdes, nous ne faisons plus confiance en personne, car tous ces grands pays nous ont trahis et c'est dur pour nous. Nous voulons que la communauté internationale qui dit croire aux droits humains, eh bien qu'ils ressentent ce que nous vivons. Qu'avons-nous fait à l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Amérique ou la Russie? Nous avons tant fait de sacrifices pour eux et maintenant, ils nous ont tous vendus.
Alors comment ressentez-vous, Patrice Franceschi, ce témoignage, sachant que le retrait occidental, ça a commencé avec le retrait américain, précisément?
Alors bon, ce genre de témoignage, je les connais par cœur. Ils sont pour moi une souffrance aussi, parce qu'on est dans la dimension morale de cette affaire. Des Kurdes qui combattent, et ils sont combattus par l'ensemble des mouvements islamistes du Moyen-Orient, qui sont aussi tous les ennemis de l'Occident, et combattus aussi par tous les États de la région. Et nous avions compris pendant, en gros, de 2014, l'époque de la bataille de Kobané, jusqu'à 2019 et la dernière offensive turque sur le Rojava, le Kurdistan syrien, nous avions compris que les intérêts sécuritaires des Kurdes et les nôtres étaient liés. Et puis, comme nous n'avons pas, surtout la diplomatie française, de suite dans les idées de conviction profonde et de détermination absolue, eh bien nous avons abandonné nos camarades kurdes à la violence des Turcs et de leur vision expansionniste dans le rêve d'un renouveau de l'Empire ottoman. Parce que c'est ça, Erdogan. Et que les Kurdes, évidemment, dans l'optique d'un renouveau de l'Empire ottoman, sont les premiers gêneurs de cette affaire. Et je dois dire qu'en la matière, évidemment, nous avons aidé et soutenu les Kurdes pendant le combat contre l'État islamique jusqu'à Raqqa, puisque c'est à Raqqa que s'étaient organisés les grands crimes et terroristes contre l'État français, notamment le Bataclan, mais qu'après ça, finalement, ayant utilisé nos amis kurdes, nous avons pensé qu'on pouvait les abandonner, alors que politiquement, bien évidemment, les abandonner à ce moment crucial était une erreur fondamentale et absolue, parce que les Turcs qui avaient soutenu Daesh pendant toutes ces années allaient évidemment les ramener dans leur fourgon en réattaquant les Kurdes. Donc, faute politique et faute morale, il faudra que l'histoire demain, où les historiens de l'avenir nous disent comment il se fait que nos nations démocratiques aient pu commettre autant de fautes politiques et morales dans des circonstances aussi graves. Ça, c'est très important. Et je dois dire que, en la matière, d'une part, notre président Emmanuel Macron a été le seul chef d'État qui ait accepté de recevoir des délégations des forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes, les Arabes et les chrétiens du nord de la Syrie qui se battaient contre l'État islamique, mais que notre diplomatie, et je pèse mes mots en disant cela, a tout fait, en réalité, pour le contrecarrer et satisfaire finalement le tyran du Bosphore, M. Erdogan. C'est très grave ce que je dis, parce que l'avenir, demain, va être entre les mains d'on ne sait qui pour notre sécurité. Actuellement, les Turcs attendent à nouveau que nous détournions le regard pour s'emparer du reste du Rojava, du Kurdistan syrien. C'est ça la grande menace. Et qu'ils sont en train de réinstaller les islamistes qu'ils avaient aidés et qu'en gros, on est revenu, malgré 50 guerres positives pour nous, à ce qui était en 2014 et que si nous ne faisons rien, s'il n'y a pas un sursaut de notre politique, de notre défense, et pas seulement celle des Français, mais des Occidentaux en général, mais surtout, si ça pouvait l'être, des Européens, nous aurons, dans les années qui viennent, à nouveau recyclé sous un autre nom Daesh dans cette région-là, qui réorganisera les attentats en Europe et notamment en France. Donc nos intérêts sécuritaires sont en jeu actuellement. La guerre du Kurdistan syrien ou du Kurdistan d'Irak, actuellement, là où, en ce moment même, Erdogan est en train de peser au maximum après avoir gagné en Libye, sera très importante pour notre sécurité. Nous n'avons pas en la matière affaire à une guerre, je dirais, exotique, lointaine, qu'on regarde à la télévision. Nous avons affaire à quelque chose qui est dirigé contre nous et sur laquelle nos seuls alliés, les Kurdes, sont donc en mauvaise posture, tout simplement parce que nous les avons abandonnés au mauvais moment. Voilà, en fait, l'histoire. Voilà l'état des lieux. Sans jugement de valeur.
Sept jours dans le monde.
Patrice Franceschi, revenons maintenant à Hong Kong pour évoquer les manifestations qui ont suivi le vote par le Parlement chinois, donc une loi dite de sécurité nationale dont nous parlions tout à l'heure. Et retrouvons Florence de Changy mercredi.
Pékin et le gouvernement de Hong Kong ont perdu leur pari. Ils avaient misé sur la nouvelle loi draconienne de sécurité nationale pour ramener le calme et la sérénité à Hong Kong, comme le promettaient aussi les nombreuses affiches qui avaient recouvert les murs de la ville depuis un mois. En fait, cette première journée sous la loi de sécurité nationale, entrée en vigueur le 30 juin à 11h du soir, a été tout aussi chaotique que des dizaines d'autres depuis un an. Il y eut plusieurs rassemblements non autorisés mais calmes et aussi plusieurs clashs violents avec la police, avec notamment des pavés déterrés des trottoirs. L'un des principaux axes de l'île de Hong Kong, Hennessy Road, a été bloqué pendant quelques heures. Un policier a été grièvement blessé par un coup de couteau dans le haut du bras et la police s'est empressée de mettre en ligne les images sanglantes de cette blessure pour dénoncer la violence des manifestants. De son côté, l'association des journalistes de Hong Kong a dénoncé l'agressivité des policiers à l'égard des journalistes présents pour couvrir les événements. Mais au soir de cette première journée, le message des Hongkongais à Pékin est clair. La méthode chinoise, aussi intimidante qu'elle soit, ne les fera pas taire.
Direction Moscou maintenant et la victoire sans surprise aucune du oui avec le score quasi soviétique de 77,92% des voix. Oui à la nouvelle constitution qui va permettre à Vladimir Poutine, s'il le souhaite, de demeurer au pouvoir jusqu'en 2036. Correspondance mercredi de Daniel Vallot.
Un oui massif à la réforme de la Constitution et la possibilité pour Vladimir Poutine de briguer de nouveaux mandats. C'est une nouvelle merveilleuse, nous explique Elvira. Cette habitante de Moscou a voté oui à la réforme avec un seul objectif, nous dit-elle, aider le président russe à rester au pouvoir le plus longtemps possible.
C'est lui qui nous a redonné une place dans le monde. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir à la fin des années 90, c'était le chaos en Russie. Mais lui, il a relevé le pays. Et depuis, grâce à lui, on va de l'avant.
L'ambiance est tout autre sur la place Pouchkine, le rendez-vous habituel de l'opposition à Moscou. Plusieurs centaines de personnes s'y sont retrouvées à la sortie des bureaux de vote pour y dire leur consternation ou même leur colère.
Pour moi, ce vote est illégal. Ça me rappelle l'époque soviétique quand on vous obligeait à aller voter. J'espère que la jeune génération ne se laissera pas faire, qu'ils iront manifester.
Au sein de l'opposition, on se prépare déjà à la suite, aux mobilisations à venir dans la rue, mais aussi dans les urnes, avec les élections locales en septembre prochain et surtout les législatives qui auront lieu à l'automne 2021.
Avant de retrouver Patrice Franceschi traversant l'Atlantique pour parler de l'extension de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, elle inquiète notamment le docteur Anthony Fauci, le directeur du Centre américain des maladies infectieuses à New York, correspondance de Lumna Anaki, mardi.
Devant les sénateurs, le docteur Fauci ne laisse place à aucun doute.
Je suis très inquiet. Je ne suis pas satisfait de la situation parce que nous allons dans la mauvaise direction. Lorsque l'on regarde la courbe des nouveaux cas, tout n'est clairement pas sous contrôle. Clearly, we are not in
total control right now. Les États-Unis enregistrent plus de 40 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour. Les 12 États les plus touchés dans le sud du pays ont déjà mis en pause ou inversé leur déconfinement. Et pour le chef du Centre des maladies infectieuses, la situation pourrait bien empirer au cours des prochaines semaines.
Je ne serais pas surpris si on atteint 100 000 cas par jour si on ne renverse pas la tendance.
Des prévisions que le vice-président n'a pas voulu commenter lors de la conférence de presse de l'équipe chargée de la gestion de l'épidémie. Mike Pence reste sur la même position que ces derniers jours. Il se veut rassurant.
Nous sommes prêts et nous sommes mieux préparés que jamais. Et je veux dire aux habitants des 12 États où l'on voit cette augmentation, nous sommes avec vous.
Une fois n'est pas coutume, Mike Pence a tout de même insisté sur l'importance de porter un masque et de suivre les consignes des autorités locales. Lui-même est arrivé masqué dans la salle. Mais il ne faut pas y voir un changement de ton, car il a tout de même précisé que le refus de se couvrir le visage faisait partie des libertés de chacun.
Et puisque nous étions à New York, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi, à l'unanimité, une résolution réclamant l'arrêt des conflits dans le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19 après plus de 3 mois de blocage entre la Chine et les États-Unis. Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Patrice Franceschi qui vient d'écrire avec les Kurdes ce que les avoir abandonnés dit de nous. Il est en ligne avec nous. Patrice Franceschi, vous qui êtes, on peut le dire, un combattant de la liberté. Que pensez-vous de ce qui se passe à Hong Kong et à Moscou aujourd'hui où la démocratie est assez attaquée?
Écoutez, Hong Kong et Moscou sont deux cas parallèles mais un petit peu différents. En tout cas, pour ce qui est de la Chine, mais qui aurait pu croire dans la désinformation générale qui nous a envoyé depuis longtemps que nous avions avec les Chinois affaire à un régime un peu semblable au nôtre? Mais il s'agit d'un régime dictatorial, d'un totalitarisme absolu. Il suffit de voir ce qu'ils font aux Ouïghours musulmans dans le Xinjiang actuellement, et qui met totalement en cause les accords de Hong Kong. C'est-à-dire qu'on est dans un déni de démocratie absolue, mais quand on a une telle dictature, qui pouvait s'en étonner? Jamais. Je n'ai cru que le statut de Hong Kong durerait aussi longtemps que ce qu'il avait été signé. On avait en face une démocratie, la Grande-Bretagne, et une dictature, un totalitarisme, qui est la Chine.
Ah, il faut rappeler que ce contrat, cet accord, Patrice Franceschi, a été signé en 1997, lors de la rétrocession du territoire. Absolument. Et cette période devait durer 50 ans.
Exactement. Mais
Un
état de territoire. En fait, je n'ai jamais été convaincu, mais absolument pas convaincu, compte tenu de la nature du régime chinois, expansionniste et dictatorial, qu'ils allaient le respecter. Dès le départ, j'avais dit, c'est un enfumage, pour être très clair. On se fiche de nous. Les démocraties sont trop molles, en l'occurrence. Elles prennent leurs désirs pour des illusions. Il faut arrêter de penser que quand on a une démocratie contre une dictature, c'est la démocratie qui va gagner. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous vivons aujourd'hui le déni de démocratie de la Chine, qui se sent plus puissante que jamais, et qui veut absolument faire de Hong Kong une région comme le reste de la Chine. C'est tout. Et ils vont gagner, bien évidemment.
Et la Russie leur...
La Russie, c'est à peu près la même chose, mais un cran ou deux en dessous. Quand on voit que Poutine fait tout pour se faire réélire jusqu'en 2034, qui peut croire qu'il s'agit d'une démocratie? Mais là, pour le coup, je pense que nous portons une grande responsabilité. Parce qu'à partir du moment où l'URSS avait disparu, nous aurions dû penser qu'une alliance réelle, une proposition de main tendue aux Russes, était l'avenir qui concernait l'ensemble de l'Europe, comme disait De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Nous avons considéré les Russes, après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, en gros comme quand même étant l'État soviétique d'avant. Et nous avons continué à considérer la Russie comme l'URSS avant, comme un ennemi. Et nous ne pouvions que la porter, évidemment, à retourner vers ce qu'elle avait connu jusqu'à présent, c'est-à-dire un déni de démocratie, ce que nous vivons aujourd'hui. Autant la Chine, dont je rappelle, par exemple, que d'un point de vue militaire, et rien qu'au niveau maritime, elle construit tous les 4 ans l'équivalent de la flotte de guerre française. Nous devons distinguer la Chine et son expansionnisme, son esprit de revanche, comme étant un danger imminent et extrêmement important, alors que le déni de démocratie qu'il y a en Russie peut être beaucoup plus rapidement résolu en tendant la main aux Russes pour retrouver ce que peut être l'Europe politique. Donc, ce sont deux cas de déni de démocratie, mais sur deux crans très différents. La Chine, c'est clair, c'est net, c'est précis, et non seulement pas une démocratie, bien évidemment, contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire, parce que nous étions fascinés par l'expansion économique de la Chine et ce qu'elle était capable de faire, mais parce que l'alliance finalement du communisme et du capitalisme, quelque chose d'absolument contre nature mais incroyablement efficace, pouvait permettre cela contre le peuple chinois lui-même. Et Hong Kong en subit les conséquences aujourd'hui parce que dès que c'était signé, c'était déjà raté.
Alors j'imagine Patrice Hanseski, que vous estimez que l'Europe fait preuve d'une sorte d'esprit de Munich vis-à-vis de la Turquie.
Alors, dire esprit de Munich, c'est être en fait très tendre, si je puis m'exprimer ainsi. Bien sûr, nous allons à Munich avec les Turcs tous les jours. En l'occurrence, nous craignons les Turcs comme si c'était la Chine. Si nous avions affaire à la Chine dans cette affaire militaire, bien, peut-être fallait-il prendre quelques précautions. Mais en l'occurrence, la Turquie nous fait peur alors qu'elle ne devrait pas nous faire peur. Ce qu'il y a d'incroyable dans toute cette affaire, c'est que nous avons les démocraties occidentales, à commencer par la France, qui était très présente évidemment au Kurdistan syrien, mais également les États-Unis et la Grande-Bretagne, face à finalement une puissance simplement régionale qui est la Turquie, mais qui a des visées internationales par son rêve néo-ottoman, et ça fait peur évidemment aux Égyptiens, aux Saoudiens, etc., sauf le Qatar, évidemment, financier de tous les islamismes qui est son allié, et que nous devrions penser que chaque fois que nous reculons devant une petite puissance régionale, simplement parce qu'elle nous fait peur, et que finalement nous ne sommes plus capables, politiquement j'entends, nos militaires ne sont pas en cause, politiquement et diplomatiquement capables de nous défendre vraiment et de voir où est l'ennemi et où est l'ami, c'est quand même quelque chose d'impressionnant sur la faiblesse finalement des démocraties. Et quand on est faible, aujourd'hui dans un monde où les rapports de force continuent à dominer les relations internationales, ça peut être la fin de quelque chose qui était positif pour nous. Donc, il faut, par rapport aux Turcs, qui se déclarent, et on vient de le voir en Libye, et enfin notre président a qualifié leurs activités de criminelles, reprendre la main, reprendre l'ascendant, mettre le holà à l'expansionnisme turc en Méditerranée, de la Libye jusqu'au Levant, et avec toutes les conséquences que ça a aussi, évidemment, au Sahel, par rapport à la Libye, et commencer finalement à simplement nous défendre avec la volonté de gagner. Malheureusement, je dois constater, et j'accuse notre diplomatie de ne pas être à la hauteur. En fait, nos diplomates, tout ce qu'ils disent souvent, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est la paix. Les militaires sont là pour faire la guerre, et nous, la paix, finalement, c'est d'aller à Munich tout le temps. Et de ce genre de paix, évidemment, sort toujours une guerre plus terrible que celle qu'on aurait dû faire avant pour la juguler immédiatement. Donc les Kurdes, au milieu de tout ça, sont les victimes de notre faiblesse, de nos lâchetés, de ce que nous sommes devenus. Et en fait, ce petit livre, avec les Kurdes, il est une vision des temps post-héroïques de l'Occident face à l'exemple kurde et de l'abandon que nous leur avons fait subir.
semaine d'actualité.
L'actualité en France, effectivement, Patrice Franceschi, maintenant avec bien sûr le nouveau gouvernement, on vous en parle dans nos journaux et la nomination d'un nouveau Premier ministre, Jean Castex. Nous allons revenir sur les élections municipales de dimanche dernier, poussée des écologistes, des Verts donc, et abstention record, Martin Guez.
Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Besançon, Poitiers, Tours, même Annecy tombe sous la main verte, n'en jetez plus derrière cette litanie des visages, de jeunes inconnus et des surprises comme à Lyon, où pour une fois les meilleurs ce sont les Verts, un comble dans la capitale des Gaules, où Grégory Doucet, 46 ans, l'emporte largement avec 20 points d'avance. Beaucoup de femmes aussi sont à l'honneur, comme Jeanne Barseguian, nouvelle maire de Strasbourg, et Léonore Monconduit, 29 ans, et désormais édile de Poitiers. Au cœur de cette vague verte, tous ceux ne sont pas de la dernière pluie. Michel Rubirola, 63 ans, met fin à 25 ans de règne Gaudin à Marseille. Une victoire écrasante, là encore, avec 10 points d'avance. Seule la digue lilloise semble résister au déluge écologiste. Pour 200 voix, la socialiste Martine Aubry est réélue une quatrième fois devant Stéphane Bally. Réélue aussi une autre socialiste, Anne Hidalgo à Paris. Encore le Premier ministre Édouard Philippe au Havre, la seule éclaircie de la soirée électorale pour LREM, le parti au pouvoir, en plein naufrage face à la vague verte. Enfin, prise de taille pour le Rassemblement national et la victoire de Louis Alliot à Perpignan, qui permet au parti d'extrême droite de prendre la tête d'une ville de plus de 100 000 habitants pour la première fois depuis 1995.
François Fillon a été reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. L'ancien Premier ministre a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Un procès en appel aura lieu. Laura Martel.
5 ans de prison, dont 2 fermes contre François Fillon, ainsi que 10 ans d'inéligibilité et 375 000 euros d'amende. Le tribunal a suivi là les réquisitions du parquet. Une peine sévère, a indiqué d'emblée la présidente, avant de détailler ses motivations. François Fillon a, selon elle, sciemment mis en place un système de détournement de fonds publics en accaparant le maximum possible de l'enveloppe dédiée aux collaborateurs parlementaires via les contrats passés avec sa femme, mais aussi, dans une moindre mesure, avec ses enfants. Or, les emplois de Pénélope Fillon auprès de son mari, puis de Marc Joulot, son suppléant, n'avait aucune consistance et ne répondait à aucun besoin, a-t-elle souligné. Des faits particulièrement graves par l'atteinte qu'ils portent à la probité et à l'exemplarité attendue d'un élu, a renchéri la présidente, comme au regard de leur durée, plus de 10 ans, et des montants détournés, évalués à 1 156 000 euros. Concernant Pénélope Fillon, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en la condamnant à 3 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende, mais a ajouté une peine d'inéligibilité de 2 ans. Marc Joulot a lui écopé de 3 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Tous trois devront aussi rembourser plus d'un million d'euros à l'Assemblée nationale. Leur défense a immédiatement annoncé qu'elle allait interjeter appel.
Décision et appel justement sur fond de polémique sur l'indépendance du parquet financier. Avant de retrouver Patrice Franceschi, notez que la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 en France a commencé ses travaux cette semaine et elle a notamment entendu l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, Valérie Cohen.
Anticipation, préparation, réactivité. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a martelé ces mots tout au long des quelques 4 heures d'audition devant la commission pour défendre son action. Celle qui est médecin de formation affirme s'être inquiétée très tôt et avoir agi en conséquence, en particulier dès le 24 janvier avec les premiers cas importés de Chine.
Je demande qu'on me fasse remonter le nombre de lits de réanimation, le nombre de respirateurs, toutes les capacités de prise en charge en termes de stock de masques, etc. Et je demande qu'on recommande des masques à cette période-là. Et je demande également aux structures de recherche de me proposer l'écriture d'un protocole de recherche avec tous les antiviraux que nous connaissons pour que nous soyons prêts, si jamais l'épidémie démarre un jour en France, à proposer des protocoles cliniques d'évaluation des antiviraux disponibles.
Agnès Buzyn n'a pas pu échapper à la question lancinante des masques en nombre insuffisant. Fin 2019, le stock stratégique de l'État est de 150 millions, alors qu'il devrait être d'un milliard. Le directeur de l'agence Santé publique France dit avoir informé la ministre en 2018. Elle réfute.
J'ai fait sortir cette semaine de mes archives la totalité des courriers et des notes qui m'ont été envoyés ainsi qu'à mon cabinet. Rien.
Et certains députés de pointer un dysfonctionnement administratif délétère.
L'actualité en France cette semaine, c'est également la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, l'annonce par Emmanuel Macron de la reprise de l'essentiel des propositions de la Convention citoyenne sur le climat et l'organisation de 2 référendums pour soumettre certaines d'entre elles au suffrage des électeurs. À suivre donc, c'est également la suppression de quelques 5000 emplois chez Airbus en France. Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, en compagnie de Patrice Franceschi, avec lui nous parlons des Kurdes et du reste de l'actualité. Patrice Franceschi, je reprends le sous-titre de votre tract, « Ce que les avoirs abandonnés dit de nous ». Que signifie cette abstention record, à votre avis, Patrice Franceschi, aux élections municipales de dimanche? Qu'est-ce que cela dit de nous?
C'est sans étonnement. Cela dit de nous le désarroi dans lequel, grosso modo, la société française se trouve, entre ce qu'il faut penser, ce à quoi on peut croire, ce pourquoi il faut se battre. Ce désarroi est quand même quelque chose de très caractéristique de notre époque. Et en fait, ce que dans ce livre, j'essaie de montrer, c'est que, à travers l'exemple de l'abandon des Kurdes, absolument invraisemblable, incroyable, comment abandonner nos propres intérêts, c'est inimaginable, j'essaie de porter une vision, finalement, de ce que nous vivons, c'est que nous sommes aujourd'hui dans les temps post-héroïques de l'Occident. C'est un thème et un concept assez intéressant qui explique pourquoi finalement nous n'avons plus beaucoup de goût pour la vérité, vivant dans le relativisme, qu'est-ce qui vaut pas. L'érosion de notre volonté de vivre libre, il fut un temps, dans l'époque avant, dans l'époque héroïque, issue d'Homère et de notre civilisation, où vivre libre, et être où la liberté en tout cas était la valeur suprême qui irriguait toutes les autres valeurs et leur donnait sens, tout ça est en train de s'éroder. Et nous préférons à cette liberté qui coûte cher à défendre, nous lui préférons le plus souvent évidemment la sécurité et la prospérité. Et finalement, le vieux du pain et des jeux de l'Antiquité revient en force. Et ainsi de suite. Et tout cela, toutes ces caractéristiques de notre époque, sont celles non pas, je dirais, d'un déclin, j'aime pas trop le terme, mais d'un reflux de ce qu'a pu être l'Occident. Et cette perte, si vous voulez, de notre identité, de notre volonté, de ce que nous voulions, est très caractéristique de notre époque et explique finalement que les gens n'aillent pas voter, tout simplement parce qu'ils ne croient plus beaucoup à notre classe politique. Tout ça est un lieu commun.
C'est l'ère du désenchantement.
Et ça se voit. En fait, c'est plus que du désenchantement, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est la perte de foi dans ce que nous sommes et dans ce que nous portons, dans les valeurs que nous avons défendues, dans ce que nous représentons, dans ce que nous étions. Et tout ça est très grave, parce que si une civilisation perd ce goût de ce qu'elle est elle-même, de la fierté de son histoire, de sa production intellectuelle et culturelle, de ce qu'elle est en elle-même, de ce qu'elle a pu apporter, en noir et en blanc, peu importe, eh bien elle est dans le reflux. Donc je ne parle pas de décadence, je parle de reflux. Et en même temps, on s'aperçoit que ceux qui sont dans le flux, ceux qui montent, ne sont pas des démocraties. On parlait tout à l'heure de la Chine. Ben oui, c'est le moins que l'on puisse dire. La volonté de domination mondiale de la Chine, avec son 1,5 milliard d'habitants, est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Ce serait une démocratie, ce ne serait pas inquiétant. Mais c'est l'inverse. Donc tout ça, finalement, brosse un tableau assez sombre du monde d'aujourd'hui. Mais je reste extrêmement optimiste dans l'idée que si on a une vision, et là je brosse un état des lieux, je me borne à constater des faits, je ne porte pas un jugement de valeur. Je dis voilà ce qui se passe, et que si nous voulons rester nous-mêmes, si nous ne voulons pas demain être asservis à quoi que ce soit, si nous voulons continuer à porter nos propres valeurs, et d'abord que la démocratie et la liberté sont les valeurs suprêmes à partir desquelles toutes les autres peuvent s'exprimer, alors, si nous ne faisons pas ça, nous sommes perdus, mais si nous le faisons, tout est gagné. Donc je parle simplement de volonté, de foi, de croyance, de jeunesse, d'énergie, d'exaltation, et à partir de là, l'exemple des Kurdes, pour revenir à ce petit livre chez Gallimard avec les Kurdes, l'exemple des Kurdes et ce qu'ils ont été capables de faire, seuls et isolés contre tous, pendant 5 ans, est assez formidable, et la foi que l'on peut avoir qu'ils ont, dans 4 valeurs qui sont aussi les nôtres, la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, le respect des minorités, tout cela porte à l'optimisme, à condition évidemment qu'on n'abandonne pas en chemin ces idées, avoir de la persévérance et de la suite dans les idées, est finalement ce qui manque beaucoup à notre politique et à notre diplomatie.
À quel prix estimons-nous notre liberté?
Exactement, c'est la question fondamentale. En réalité, nous sommes dans une époque, une pensée très calculante, en quelque sorte une sorte de pensée managériale des choses. Or, le politique, la démocratie, tout ça ne doit pas être une pensée managériale et de calcul. Il y a des valeurs que l'on défend, quel qu'en soit le prix. Et effectivement, la première question, chaque fois que nous devons agir, c'est finalement notre liberté, elle est à quel prix? Et si nous pensons que rien n'a de sens, comme toute notre civilisation l'a dite, depuis l'époque des Grecs et des Romains et que sans liberté, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, alors les réponses sont très faciles à apporter à chaque chose. Mais comme nous perdons de vue, finalement, ce qui fait notre être profond en tant que civilisation, donc porteuse à la fois de démocratie et de liberté, les deux étant évidemment intimement liés, chaque fois que nous perdons de vue tout cela, nous ne savons plus quoi répondre au prix de la liberté. Alors on calcule, et ça coûte toujours trop cher. Alors on démissionne à chaque fois et l'on recule. Et de l'autre côté, nous avons affaire à des impérialismes, comme celui d'Erdogan et des Turcs actuellement, dans le rêve néo-ottoman, qui font que chaque fois on recule, parce que nous ne sommes plus capables de répondre à cette idée simple, quel est le prix de la liberté, et qu'il faut parfois se battre pour elle, quel que soit le prix que cela coûte.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook ou à l'adresse qu'on vient de vous donner. Et je commence par saluer un de nos auditeurs fidèles, Mokhtar, à Richard Toll, au nord du Sénégal. Il vient de se marier. Toutes mes félicitations et je salue comme il se doit son épouse, Fatou, mes vœux de bonheur à tous les deux. Bonjour à Alpha Idi, qui est vice-coordinateur de l'association Terrafrique à Conakry. Bonjour à Abdul Majid Diallo à Ziguinchor, à Fousseni, qui nous écoute à Lomé, à Aliou, à Kébémer Louga au Sénégal. Un salut également à Babacar, à Dakar, à Suarez, à Abomé Calavi, à Malal à Nouakchott et à Joris à Ouagadougou.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour l'Afrique, Patrice Franceschi. Revenons d'abord sur le sommet du G5 Sahel qui s'est tenu en Mauritanie mardi. Reportage de François Mazet.
La France se défend d'être timide dans sa dénonciation des violations des droits humains, mais la MINUSMA et les ONG documentent par centaines les exactions extrajudiciaires au Mali, Niger et Burkina Faso. Pour y répondre, Paris donne la priorité aux opérations conjointes afin d'éviter les actions autonomes d'armées nationales toujours décrites comme fragiles et espère une implication européenne croissante dans la formation et le déploiement de magistrats pour permettre des suites pénales. Autre défi, la mobilisation de la communauté internationale. Sur le volet militaire, l'opération européenne Takuba manque encore de partenaires. Sur le volet développement, la coalition pour le Sahel, lancée à Pau, doit soutenir des projets plus ciblés, plus visibles et plus efficaces. Sur le plan politique, avec la crise au Mali, la mise en œuvre des accords d'Alger est à l'arrêt, tandis que le Burkina entre dans un cycle électoral qui laisse craindre, là aussi, un flottement qui inquiète Paris. Reste surtout à savoir comment les groupes djihadistes répondront à la pression des derniers mois, comment ACMI se réorganisera après la mort d'Abdelmalek Droukdel, si son conflit avec le IGS se poursuivra, ou encore si l'attaque de Kafolo augure d'une tentative pérenne de nuire plus au sud.
Lentement mais sûrement, l'Afrique poursuit son déconfinement en Guinée, par exemple, et à noter dans ce pays la réouverture de certaines classes. Correspondance lundi de Mokhtar Ba.
C'est une rentrée en deçà des espérances qui a été observée ce lundi à Conakry. Des écoles qui n'ont pas ouvert parce qu'il n'y avait pas de kit sanitaire ou parce que les enseignants ont boycotté cette première journée à cause de salaires impayés. À Conakry, les élèves et les enseignants se sont mobilisés par endroits où des mesures barrières étaient installées. Kernoba, de l'association des parents d'élèves de Kaloum.
Ça se passe très bien, toutes les dispositions ont été prises. Les élèves sont venus, les enseignants sont là, les encadreurs et les mesures d'hygiène sont pratiquement sur les lieux. Toutes les conditions sont réunies pour une rentrée réussie.
Pour les écoles qui n'ont pas ouvert leur classe, l'explication est ailleurs, selon le ministre de l'Éducation nationale, Bano Bari.
Le communiqué que nous avons passé hier indique très clairement qu'une école n'ouvre que si toutes les mesures barrières sont respectées. Au fur et à mesure que les écoles vont recevoir le matériel et qu'elles vont l'installer, elles auront l'autorisation d'ouvrir.
Aboubakar Souma, le secrétaire général du puissant syndicat des enseignants et chercheurs de Guinée, après 3 mois de grève avant l'apparition de la pandémie, invite les enseignants à reprendre le chemin de l'école.
J'invite tous les enseignants à se mobiliser, de venir faire le peu qu'ils peuvent pour que nous puissions au moins atteindre les 60% des cours afin que les examens puissent être tenus.
Il faut préciser que c'est seulement les élèves et étudiants en classe d'examen qui ont repris les cours.
Parlons maintenant de la situation sanitaire à Dakar, cette fois après 4 mois de traitement de l'épidémie. Correspondance de Charlotte Hydrac.
Pas de changement pour le traitement à l'hydroxychloroquine, il se poursuivra au Sénégal. Le responsable de la prise en charge s'appuie sur une nouvelle étude sur 838 patients. Le professeur Moussa Seydi confirme son efficacité, notamment sur la durée d'hospitalisation des malades.
La durée médiane qui était de 10,5 jours est en ce moment à 10 jours versus 12 jours si le patient n'avait pas pris le traitement. C'est aussi un traitement bien toléré. La prévalence des effets secondaires est entre 2 et 3%. Et plus important encore, tous les patients qui ont pris ce traitement en stade précoce de la maladie n'ont pas eu de complications et aucun n'est décédé.
Concernant le Covid organique, le remède malgache, le processus suit son cours. Il faudra asseoir un essai clinique, souligne le professeur Seydi, comme pour l'Artemisia du Sénégal. Les autorités sanitaires misent désormais sur le renforcement de la prise en charge à domicile. Le docteur Abdoulaye Bousseau, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire.
Certaines populations remplissent les conditions pour être prises en charge à domicile. Il y a aussi un fait important qui nous pousse à y aller avec l'augmentation de la stigmatisation. Plus de 200 personnes qui refusent d'aller dans les centres de traitement. Ces personnes, nous ne pouvons pas les abandonner.
Autre changement, les tests de dépistage aujourd'hui réalisés sur tous les cas suspects et leurs contacts ne seront plus systématiques, mais réservés aux personnes vulnérables et celles présentant des symptômes.
Patrice Franceschi, la Cour d'appel de Paris a confirmé hier, vendredi, le non-lieu rendu après 20 ans d'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana, épisode déclencheur du génocide de 1994. Après 6 mois de délibération, les magistrats de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris ont confirmé la décision des juges antiterroristes qui ont ordonné le 21 décembre 2018 d'abandonner les poursuites contre 9 membres ou ancien membre de l'entourage de l'actuel président rwandais Paul Kagame, un rappel des faits de cette longue affaire avec Florence Maurice.
Il est environ 20h30 ce mardi 6 avril lorsque l'avion du président Habyarimana amorce sa descente sur Kigali. À bord, il y a aussi le président burundais Cyprien Ntaryamira. L'avion est frappé par un tir de missile, s'écrase, il n'y a pas de survivants. Dans les heures qui suivent, les massacres commencent dans Kigali. Qui a tiré ? Un quart de siècle plus tard, la justice française n'a toujours pas tranché. S'agit-il d'extrémistes hutus qui auraient cherché à se débarrasser d'un président jugé trop modéré et à faire accuser leurs ennemis pour justifier le génocide à venir, c'est ce qu'affirme l'actuel pouvoir rwandais. S'agit-il plutôt de l'ex-rébellion du FPR de Paul Kagame qui aurait visé le président pour déstabiliser le pays et prendre le pouvoir? En France, c'est cette thèse qui a d'abord été privilégiée par le juge Bruguière. Selon lui, les missiles auraient été tirés depuis la colline de Massaka, mais en 2012, un rapport d'expertise balistique commandé par son successeur, le juge Trévidic, fragilise cette thèse. Sans tirer de conclusion, ce rapport désigne comme probable zone de tir les environ du camp de Kanombé aux mains de l'unité d'élite du pouvoir Hutu à 3 km de Massaka. Fin 2018, dans leur ordonnance de non-lieu, les juges français concluent à l'absence d'éléments matériels indiscutables, tout en soulignant le climat délétère entourant cette enquête.
L'enquête française sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana a été une véritable mascarade. C'est ce qu'a estimé hier le ministre rwandais de la Justice après la confirmation par la justice française précisément d'un non-lieu dans cette affaire. Nous sommes toujours en compagnie de Patrice Franceschi qui vient d'écrire avec les Kurdes ce que les avoir abandonnés dit de nous. Je sais que vous connaissez l'Afrique également, Patrice Franceschi. Que pensez-vous de l'intervention? Alors pour le coup, il y a une réaction occidentale entre guillemets et africaine contre le terrorisme dans le Sahel?
Ah, écoutez, le terrorisme dans le Sahel n'est qu'un épiphénomène, une conséquence du terrorisme général dirigé par les islamistes contre finalement l'Occident ou la civilisation européenne dans un grand jeu de rapports de force dans lequel la Libye était impliquée, dans lequel le Levant est aussi impliqué, dans lequel la Turquie quand on voit son intervention en Libye au profit des frères musulmans, est impliqué. Donc, en fait, il n'y a pas une localisation de ces problèmes-là sur le Sahel. Tout cela relève d'un cas général, mondial, de rapport de force entre les uns et les autres. Et nous sommes, nous, occidentaux, en la matière, et les musulmans, en règle générale, et bien des Africains, victimes de cet expansionnisme dirigé par les islamistes. En règle générale, la Turquie est en pointe en la matière. On ne résoudra pas cela en 5 minutes. La faiblesse, finalement, des démocraties et des États africains, du Sahel, il faut dire les choses telles qu'elles sont, seront effectivement, malheureusement, pour l'avenir, les deux, faiblesse occidentale et faiblesse des États africains, malheureusement, par rapport au succès que nous pourrions avoir contre des totalitarismes extrêmement déterminés, seront nos faiblesses et les risques que nous courons de perdre en la matière. Nous assistons en réalité depuis une cinquantaine d'années, dans toutes les guerres que mène l'Europe, ou l'Occident, c'est comme vous voulez, à un reflux général par rapport à la montée des totalitarismes, et on parle là aussi bien de celui de la Chine dans un autre registre que celui de l'islamisme en règle générale, et d'abord contre les musulmans, bien évidemment, c'est ce à quoi on assiste en Syrie avec les Kurdes.
Patrice Franceschi, pour conclure cette émission, vous écrivez dans ce tract « Je me préoccupe guère du jugement des animaux à sang-froid ». Vous êtes-vous un homme passionné? Vous vous heurtez en réalité à ce que l'on appelle la réelle politique?
En fait, si vous voulez, la réelle politique, telle qu'elle est mal comprise, c'est celle qui pense que les intérêts réalistes sont immédiats et non pas sur le temps long. Il est très facile de réagir dans l'immédiateté. C'est l'air du temps pour se faciliter les décisions et penser que finalement on a résolu les problèmes du temps long. En réalité, la réelle politique telle qu'on peut la considérer aujourd'hui est celle qui pense que le temps long n'existe pas, que ce qui importe c'est la réalité immédiate, quel que soit le prix, sur le long terme. Donc on se heurte évidemment à cela, c'est l'époque, c'est une forme de la modernité que nous n'attendions pas. Mais contre laquelle il faut aller. Et tant que nous vivons encore en démocratie, les gens comme moi, les écrivains engagés, peuvent écrire chez Gallimard ou ailleurs, dans la collection Tract en l'occurrence, des plaidoyers qui sont aussi des manifestes pour dire au fond, de manière tout à fait indépendante, et je l'espère véridique, la réalité des choses au moment où elles se passent, tout en se projetant sur le temps long. Seule chose importante aujourd'hui pour défendre la chose la plus importante que nous ayons à défendre, à la fois la liberté et la démocratie.
Merci Patrice Franceschi. Votre tract donc s'intitule « Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous ». C'est une réflexion à la fois sur la question kurde, comme on dit, et sur le sens que nous donnons aujourd'hui à la vie tout simplement et à la démocratie. Merci.
C'est un plaisir, merci à vous.
C'est la fin de cette édition d'Une Semaine d'Actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Nous étions en studio et encore une fois, nous en sommes ravis. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, durant lequel nous parlerons de la guerre. Toujours la guerre, elle est la mère de toutes choses, disait Héraclite. Avec nos deux invités, Gilles Ragache, avec lequel nous parlerons de juin 40, et avec Jean-Noël Jeannonnet, demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.